With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Aujourd'hui, nous avons deux stagiaires d'école du journalisme qui assistent à l'émission et je voulais en profiter pour lancer un grand message d'espoir à tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire carrière dans le journalisme. Alors, vous faites des fautes à chaque phrase. S'exprimer en public est une torture, les études ne sont pas faites pour vous, vous avez du mal à construire un raisonnement clair. Pas de panique. Non, pas de panique, vous pouvez devenir journaliste sans problème. Et s'il fallait vous en convaincre, Maxime Dupuis à mes côtés est le plus bel exemple qu'il soit. Il a arrêté l'école en CP parce qu'il n'arrivait pas à colorier sans dépasser. Au-delà de 1+1, il a les fils qui se touchent. Mais, il est aujourd'hui rédacteur en chef adjoint d'Eurosport.fr et tête d'affiche pardon, d'une grande maison. Si Maxime y est arrivé, vous pouvez y arriver. Croyez-moi.
Super message d'espoir. Et j'ai écrit un bouquin.
Et t'as écrit un bouquin. Et...
Là, mais bon.
Là, il faut toujours qu'il le ramène.
Ah, ça fait plaisir.
Il faut toujours qu'il le ramène. Ouais. C'est vrai alors... que t'as écrit un livre alors que t'as un orthographe et... défaillant.
Alors, deux choses. Colorier sans dépasser. C'est vrai. J'y arrive toujours pas.
Voilà,
je suis gaucher.
Oui.
Donc, ce qui est compliqué. Mais ça, je l'assume. Les maths 1+1, je l'assume aussi parce que j'étais vraiment. Mais je pense qu'il n'y a pas pire. Matheux que moi.
Et pourtant, tu y arrivais.
Et pourtant, j'y arrive et j'arrive à calculer pourtant mon salaire mensuel.
T'as arrêté quand, Maxime, l'école ? Dis la vérité aux gens. Quatrième,
donc,
non ?
En 1984, donc à peu près.
Ouais, c'est ça. T'avais 10 ans. Ouais. Donc, le journalisme, vous le savez. Hein.
Mais le journalisme, c'est l'école de la vie.
Exactement.
C'est un peu, tu dois humer l'air extérieur.
Exactement.
Tout ça, donc,
On s'est fait à partir de rien avec Maxime.
On est parti de tout en bas.
Tout en bas, et regardez où on est aujourd'hui.
Toi, t'es parti de Firmini.
De Firmini, moi.
Firmini, le mec, il est là maintenant, il porte des pulls capuches avec des crottes de nez dessus.
Exactement. Mais pas parce que j'oublie pas d'où je viens.
Ouais, c'est ça.
Et comme ça, c'est un hommage. C'est un hommage. Et si vous nous écoutez de Firmini, grande force à Firmini. Et au Corbusier, notamment, hein, parce que HLM, on se fait tout seul.
Est-ce qu'il y a des gens derrière qui nous écoutent de Firmini ?
J'espère. Si en tout cas, il y a des gens qui nous écoutent de Firmini, venez nous voir sur Twitter. Et j'ai envie de vous payer un aller-retour à Paris pour que vous veniez assister à la Stream Team.
Oui,
parce que...
et moi, alors là, je paye même la nuit d'hôtel.
Si attention, Maxime.
Si vous me ramenez un enregistrement vidéo ou audio.
ça n'existe pas.
De Martin qui chante.
Oui, c'est vrai.
Parce que Martin a une première vie de rappeur.
Exactement, j'ai une première vie de rappeur à Firmini. Mais il n'y a rien sur les internets parce qu'à l'époque. Bah, il n'y avait pas Internet, tout simplement. Si, ça démarrait, mais...
Ah, il y a le caméscope, quoi.
Il y a des bandes qui traînent chez mes parents.
Donc, les parents qui, à un moment, nous écoutaient,
c'est
ont
vrai.
Fini par se lasser, j'ai l'impression.
Ils se sont lassés de toi, surtout. Ils se sont lassés de toi.
Mais... Non, je croyais savoir que ton père était souvent d'accord avec moi, non ?
C'est vrai. Mais non, il n'écoute plus les émissions. C'est quand on est passé au podcast. Il aimait bien quand on était sur Facebook, mais maintenant qu'on est sur le podcast...
Il faut qu'il avance.
Ouais, mais tu sais, enlever maintenant les vieux de Facebook, c'est compliqué.
Ouais, c'est ça.
C'est compliqué.
Il n'y a plus qu'eux, d'ailleurs.
Il n'y a plus qu'eux, exactement. Trois sujets aujourd'hui dont on va débattre avec Maxime. Évidemment, on va démarrer avec la grande actualité du jour. Hervé Renard, nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine. Est-ce que c'est l'homme idoine ? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut au bleu ? Ce sera la première question de cette émission.
On parlera ensuite de Ligue 1 et de Lionel Messi, de Ligue 1 et même d'ailleurs, et même de Mercato. On va se poser la question suivante. Quelle serait la meilleure suite, voire fin de carrière pour Lionel Messi ? Est-ce que c'est le PSG ? Parce qu'évidemment, il y a encore. Ou est-ce que c'est ailleurs ? On essaiera un peu de décrypter ça dans la deuxième partie.
Et on terminera avec le coup de gueule de tonton Max, hein, comme d'habitude. T'as pas aimé, Maxime, hier, les salaires de la Ligue 1. Mais t'as pas aimé l'inflation.
Personne ne devrait aimer.
Voilà. Et donc, on parlera des salaires de la Ligue 1. On se posera cette question. Est-ce que la Ligue 1 a encore perdu la raison ? Elle n'a visiblement pas retenu les erreurs du passé, Maxime.
L'avait-elle trouvé un jour ?
Exactement. C'est tout le problème. Allez, on va démarrer avec Hervé Renard, non ?
Bah, on va déjà rappeler que l'émission est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, les bonnes, les mauvaises, donc dans l'ordre, dans le désordre, Deezer, Spotify, Apple Podcast, voilà. Comment ça s'appelle ? Acast, voilà, tout podcast, voilà, vous trouvez ça partout. Vous vous abonnez, vous mettez une note, évidemment, 5 étoiles.
Abonnez-vous, c'est important, pour que vous ayez des petites, des petites alertes, des petites notifications.
Vous nous laissez des commentaires, évidemment.
Plutôt positif.
Plutôt positif.
Plutôt positif, hein. Et puis, si vous venez pour nous flinguer, ça,
on s'en fout, on ne les lit pas.
Voilà. Mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Les gens, à quel point l'existence des gens doit être misérable.
Oh là là, tu vas voir comment.
Mais non, mais pour que même, tu vois, tu as une mauvaise expérience dans un resto, et ben ok, mais va pas sur Google cracher ton fiel à un moment.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai. À quel point ta vie doit être mise. Alors, le mec, il se dit dans sa voiture, je vais rentrer à la maison, je vais
déglinguer. C'est à quoi ça me fait penser, ça ?
S'en fout.
C'était à la fin du repas, à la fin du plat de résistance, le serveur te demande, ça s'est bien passé.
Ouais.
Qu'est-ce que je vais lui dire ? Non, c'était dégueulasse, c'était pas cuit, c'est un scandale, je reviendrai plus. Bah non, je reviens pas, mais c'est pas la peine. Voilà.
Exactement, c'est notre petit coup de gueule, voilà. Ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va démarrer avec donc l'intronisation d'un nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Et pour succéder à Corinne Diacre, la FFF a choisi Hervé Renard. Hervé Renard qui n'a aucune expérience dans le foot féminin, qui débarque, qui a débarqué ce vendredi en conférence de presse. Bah voilà, pour nous expliquer un peu pourquoi il est venu ici. Dans 3 mois, il y a quand même une Coupe du Monde à gagner pour l'équipe de France. Hein. L'équipe de France qui fait toujours partie quand même, malgré tout, des références au niveau des sélections féminines. Maxime, pour toi, est-ce que Hervé Renard, dont on rappelle qu'il a quand même un joli palmarès, champion d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire en 2013 et 2015, il a participé à 2 Coupes du Monde, est-ce que c'est l'homme qu'il fallait pour les filles d'équipe de France ?
Ça, j'ai envie de te dire que je te le dirai peut-être dans 3 mois. Une chose est sûre, c'est que Renard, c'est un parcours évidemment particulier. Renard, il vient de passer 4 ans en Arabie Saoudite à diriger la sélection. Évidemment, en point d'orgue, cette victoire face à l'Argentine en Coupe du Monde, qui est la plus grande victoire de l'Arabie Saoudite depuis 1994, la Belgique, avec le slalom d'Alo Weigrand. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Hervé Renard, c'est un personnage particulier, puisqu'on a vu que là où il a réussi, c'était à l'étranger exclusivement. En France, ça s'est moins bien passé. Et souvent, avec des sélections, évidemment, on l'a vu en Afrique, il gagne quand même 2 fois la CAN, ce qui n'est pas rien. Et en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est fait aussi pour des missions un peu commando. Voilà. Il a le double avantage, on en reviendra après là-dessus, d'avoir du charisme. D'ailleurs, Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, l'a dit. C'est quelqu'un de charismatique et c'est sûrement pas un détail dans le fait qu'il ait été choisi. Et de savoir mener une opération commando. Parce que, évidemment, là, ce qui arrive à l'équipe de France, c'est évidemment le besoin d'aller vers ça. On rappelle quand même les faits. La précédente sélectionneuse, d'ailleurs, sur le fond, sur la forme, moi, je trouve ça pas terrible ce qui s'est passé. S'est fait lâcher par ses joueurs. Alors, par ses joueuses, pardon. Ça se passait très, très mal avec elle. Donc, évidemment, à un moment, il aurait peut-être fallu couper les liens, on va dire, un peu plus tôt. Mais c'était la gouvernance Le Graët, etc. Donc, au fond, les joueuses ont profité aussi de la fin de Le Graët pour la mettre dehors. Et c'est aussi un risque pour elle parce qu'évidemment, elles vont arriver à la Coupe du Monde avec une pression XXL, le droit à l'erreur qui sera vraiment très réduit. Donc maintenant, est-ce qu'il est l'homme de la situation ? Je pense qu'il a en tout cas le profil de la réussite sur des missions courtes et un peu, on va dire, chaudes. Lui, il n'aime pas trop qu'on le réduise à ça, mais n'empêche qu'il a ça. Maintenant, est-ce qu'il réussira ? J'en sais rien parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est qu'Hervé Renard a entraîné, depuis le début de sa carrière d'entraîneur, que des sélections ou des clubs masculins. Mmh. On le voit dans le choix de ses adjoints, Eric Blake qui est là, c'est quelqu'un qui faisait partie de l'ancien staff avant de partir, qui connaît pertinemment le football féminin. Donc il va lui falloir un grand niveau d'adaptation et surtout de la rapidité pour y arriver parce que je pense que c'est... Il rentre dans un secteur qu'il ne connaissait pas du tout avant d'arriver.
Alors moi, il y a 2 choses. Déjà, passer de Diacre à Renard, tu passes un peu de la lune au soleil ou de l'hiver à l'été quand même. Hein. Donc au niveau de coup de com', je trouve ça exceptionnel de la part de la FFF. Le problème de cette équipe de France, alors évidemment elle est sportive parce qu'elle se cogne à un plafond de verre depuis quand même quelques années, mais au-delà de ça, c'était aussi et surtout un problème d'image ces derniers temps. C'est-à-dire qu'entre les affaires entre les joueuses, entre le management de Corinne Diacre, l'image elle s'était détériorée. Et donc là, tu choisis un sélectionneur qui a une image sympathique. Et je ne parle pas là de ses chemises blanches, de son bronzage, tout ça. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle d'une image
d'ailleurs,
sympathique.
D'ailleurs, il était en noir aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas...
Bien sûr. Donc, il y a ça. Et tu voilà sur quelqu'un qui attire la lumière à lui, sur un nom, sur une gueule. Et je pense que pour la prédiacre, il y avait quand même pas beaucoup mieux. En plus, en termes de palmarès, on l'a dit, hein, deux Cannes, deux Coupes du Monde avec des sélections. Alors oui, des sélections hommes, mais tout de même. Tu prends quand même un des sélectionneurs en vogue du dernier mondial. Tu as parlé de l'expo de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Je trouve que médiatiquement, c'est une façon aussi d'enterrer un peu tous les cadavres et de mettre la poussière sous le tapis. Tout ce qui s'est passé ces derniers mois, voire ces dernières années avec l'équipe de France. Donc, c'est un fresh restart. Et je trouve ça, plutôt bien. En plus, tu parlais d'adaptabilité. Je pense qu'en termes d'adaptabilité, tu ne peux pas faire beaucoup mieux qu'Hervé Renard, qui a réussi en Zambie, qui a réussi en Côte d'Ivoire avec des stars, qui a réussi en Arabie Saoudite. Alors, ce n'est pas les hommes et les femmes, certes, mais c'est quand même des contextes hyper différents, avec des joueurs, des sélections à qui tu parles différemment sans doute, des cultures différentes. Et je pense qu'en termes, il sait s'adapter, Hervé Renard. Je ne sais pas si ça fonctionnera, parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal devant nous. Mais en tout cas, je pense qu'en termes de profil, aussi bien au niveau de la com, c'est-à-dire de partir sur quelque chose de nouveau, de frais, et de gay, j'ai envie de dire, parce que c'est important qu'il y ait un peu de joie de vivre dans cette équipe de France qui en manquait. Et en termes aussi de profil, je pense que c'est en tout cas un joli coup de la part de la FFF.
Pour avoir un peu suivi, même beaucoup, l'équipe de France masculine version Raymond Domenech, Corinne Diacre, c'était devenu un peu Raymond Domenech, mais sans les saillies verbales et l'humour au fond, parce qu'il arrivait quand même toujours à ramener quelque chose d'humoristique, même si à la fin il était devenu sa propre caricature.
Mais c'est triste, quoi.
Sûr que Hervé Renard, on passe dans autre chose. Maintenant, comme tu dis pas beaucoup mieux. Sportivement, je suis pas sûr, parce qu'il y a sûrement des entraîneurs qui étaient déjà dans le football féminin qui avaient cette expertise, notamment on parle d'Éric Blahic, peut-être qu'Éric Blahic faisait plus l'affaire. Alors, il est dans le staff, donc ça passera très bien.
Je pense que le côté com était hyper important.
Mais voilà. Et justement, je voulais appuyer là-dessus. Philippe Diallo a dit qu'il fallait que le sélectionneur, ou il l'a dit aujourd'hui, il fallait que le sélectionneur ait une expérience du haut niveau et qu'il soit charismatique.
Ben voilà.
Autre chose ajoutée par Jean-Michel Aulas, qui expliquait que l'appel d'offres pour les droits TV va être pratiquement lié entre l'équipe de France et la D1 Arkema. Bon, ça dit quoi ? C'est que la locomotive équipe de France, elle doit servir aussi championnat qui est à la traîne. On vient de voir.
Donc,
les
en gros, il faut quelqu'un pour vendre le foot féminin.
C'est un
et
peu
je pense
ça.
Qu'il faut quelqu'un qui l'incarne.
Il faut un sourire.
Ouais, il faut un sourire.
Et des résultats quand même. On voit quand même que, et c'est pas un hasard, jeudi soir, deux équipes françaises se sont fait sortir en quart de finale de la Ligue des Champions, Lyon, le PSG. Si je ne m'abuse, ce n'était plus arrivé depuis 2014. Ça prouve quoi ? Pas forcément que les équipes françaises sont moins bonnes, mais que c'est qu'autour, ça a progressé. Parce qu'à partir du moment où notamment les Anglais s'y sont mis au football féminin, ils ont mis les moyens. Avant, je caricature, mais il y a 10 ans, on avait Wolfsburg, en gros Lyon. Là, il y a d'autres pays qui arrivent. Et donc, le bien-être et les performances du football français passent par plus de moyens. Et évidemment, on comprend un peu l'engrenage de dire, bon, si l'équipe de France va mieux, si en plus le football de club est mis dedans, ça aidera à le rendre plus compétitif. Et donc, Renard, il a une mission finalement qui dépasse presque le cadre de l'équipe de France et de la Coupe du Monde d'ailleurs. Hervé Renard qui va devenir le premier entraîneur de l'histoire, je pense, à enchaîner deux Coupes du Monde en 8 mois.
En 8 mois.
Plus les JO un an après, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je pense que ça passera par les résultats. Il faut le dire, c'est quand même une Coupe du Monde à haut risque. Pour lui, parce qu'on oubliera, si ça se passe mal, on oubliera qu'il vient d'arriver. Ça, c'est la règle du genre, si ça se passe bien.
Évidemment.
En revanche, les joueuses, elles ont intérêt à être très, très, très bonnes.
Mais est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est pas plus les JO que la Coupe du Monde, les JO de Paris que la Coupe du Monde ? Je pense sans doute. Est-ce qu'ils auraient pris ce risque-là à 3 mois des JO de Paris ? Je ne sais pas, peut-être.
Ah vu où ils en étaient, je pense que... Alors, c'est compliqué à dire parce que, évidemment, le football féminin, le poids des JO dans le football féminin
n'est pas
le même
que
dans le football masculin.
C'est quasiment le même poids que la Coupe du Monde, quasiment.
Aujourd'hui, je ne sais pas quand même. À un moment, oui, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quand même...
C'est les deux grosses compètes.
C'est deux très grosses compètes. Donc, évidemment, un titre olympique à Paris, personne ne crache là-dessus.
Ah, oui.
Mais bon, être championne du monde de foot... ça le fait aussi. Voilà. C'est vrai que les filles ont cette chance d'avoir au moins 3 compètes de très très haut niveau et de très grande importance, ce que les garçons n'ont pas, puisque les JO, alors ça sera particulier parce que c'est à Paris, mais les JO en football, on sait que c'est pas vraiment. C'est plus souvent un objectif individuel que collectif.
En tout cas, avant l'équipe de France féminine et ce poste de sélectionneur était plutôt voué à des DTN dont on ne savait pas trop quoi faire et qui arrivait là un peu. Là, on prend, on prend un vrai sélectionneur.
Les noms ?
Bah non, mais, bah Bruno Bini, Philippe Bergerot. Voilà. Et après, mais sans mettre en doute ou voilà leur capacité ou leur qualité en tant que sélectionneur de l'équipe de France féminine, mais on n'était pas sur des noms ronflants. Même Olivier Chouafti, même si aujourd'hui il fait un super boulot du côté de Quevilly, et même quelque part Corinne Diacre, là on passe quand même, juste en termes de noms et d'image, à Hervé Renard, qui est connu à peu près partout aujourd'hui, qui est une idole absolue en Afrique. Et ça prouve aussi le poids du foot féminin et de cette équipe de France féminine, le poids qu'elle a pris, la dimension qu'elle a prise. Et ça, on peut s'en réjouir.
On passe au deuxième sujet. Et on va revenir, j'allais dire en Ligue 1, mais c'était ce matin, c'était à Paris, la conférence de presse, donc on reste à Paris. On va parler de Lionel Messi et de son avenir. C'est une des questions principales de cette fin de saison. Le PSG est premier du championnat avec 7 points d'avance sur l'OM. Le PSG ne va pas très bien, du moins on l'a laissé mal en point avant la trêve, pour une raison simple, c'est que l'élimination en Ligue des Champions est passée par là. Et que se pose la question, l'énième question de l'avenir du Paris Saint-Germain et évidemment l'avenir de ses stars. Alors a priori, l'avenir de Kylian Mbappé, on le souhaite pour le PSG au moins, est réglé. Ce sera au moins une saison de plus à Paris. Neymar, je ne sais pas si on le souhaite au PSG, mais vu son contrat, ce sera au moins quelques saisons de plus à Paris avec des émoluments XXL. Reste le cas Lionel Messi, qui est un peu entre deux feux. Doit-il prolonger ? Doit-il partir ? On a eu envie de prendre le contre-pied et de se mettre à la place de Lionel Messi. Martin, Lionel Messi, si tu étais le génial gaucher...
Bah déjà, je ne serais pas là.
Tu ne serais pas là.
Je serais tranquillement dans mon appart en train
Exactement.
De siroter mon maté.
Mais si tu devais peser une solution pour ton avenir, où est-ce que tu aurais tendance à aller ou rester ?
Alors déjà, je ne retournerai pas au Barça, ça c'est une certitude, parce que j'aurais peur d'abîmer mon héritage. Et je pense que même du point de vue du Barça, ça n'irait pas, parce qu'ils ont construit quelque chose et foutre Messi là-dedans, ça mettrait un boxon pas possible. Mais même du point de vue de Messi, je veux dire, ce que j'ai fait au Barça, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Donc j'irai pas au Barça. Paris, il m'a l'air quand même triste, il m'a l'air touché, il m'a l'air pas heureux, il m'a l'air pas épanoui. À l'âge qu'il a, après tout ce qu'il a fait, je sais pas pour quelle raison il resterait une année de plus. Je pense que ça l'a marqué, les sifflets. Et au-delà des sifflets, c'est l'ambiance morose qu'il y a au PSG et le peu de considération qu'on a, à tort ou à raison, sur ce qu'il fait à Paris. Voilà, donc Paris-Barça d'un revers de main. Moi, tu me connais, je suis un romantique. Voilà, donc moi, l'argent, je ne suis pas un homme d'argent. Et tu le sais, Maxime, d'ailleurs, ouais. Tu es moyenne plus 1, tu le sais, vu que tu ne m'as pas augmenté depuis 15 ans. Mais je ne suis pas un homme d'argent, donc je n'irai pas en Arabie Saoudite. Je n'irai pas aux États-Unis non plus. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est important quand même. Donc, tu l'as compris, j'irai finir ma carrière en Argentine. Parce que ça, ce serait une fin de carrière romantique. Ça, ce serait chouette. Et puis, ce sera un moyen aussi de renouer le lien avec un pays qui finalement le connaît, mais le connaît en tant que presque élément extérieur. C'est-à-dire que Messi n'a jamais porté le maillot d'un club dans une division, dans une grande division. Il n'a jamais défendu les couleurs d'un club. Donc, j'irai effectivement en Argentine, terminer ma carrière tranquillement. Parce que c'est peut-être quelque chose qui lui manquera à la fin quand même. Alors oui, il y a une pression populaire énorme, peut-être qu'il sera étouffé par ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu les images quand il va au resto en Argentine où bah, c'est la foire évidemment. Mais ce serait quand même chouette de le voir au moins une fois jouer dans le championnat argentin. Donc moi, j'irai là-bas. Mais bon, je sais très bien que ce n'est pas ça qu'il fera, donc ça me désole. Je pense que moi, alors, c'est l'Arabie Saoudite ou la MLS. Mais...
Ouais, alors ça serait sûrement les Newell's Old Boys.
Ah oui, ce serait New West Old Boys. Ah oui, si j'en ai pas parlé.
Mais c'est vrai que le côté pression, en effet, mais je sais pas s'il court derrière ça. Je pense que c'est sympa de revenir une fois tous les deux mois en Argentine et d'être entouré par 400 personnes dans le resto. Tous les jours, je suis pas sûr. Il y a un peu plus de 20 ans de ça, quand on demandait à Zidane s'il s'imaginait jouer à Marseille, à l'époque où c'était possible, parce que là, je vous dis, ça vous paraît illusoire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était possible financièrement et tout le tralala. Bah lui, il disait que c'est pas l'Argentine, Marseille, mais il disait que ça aurait été très compliqué pour sa famille, tout ça. Je ne sais pas si Messi est prêt à ça. En effet, ce serait formidable. Moi, je pense que de toutes les idées dont on peut parler, c'est la plus fantastique. Parce que comme tu dis, il est parti à Barcelone à 13 ans pour pour se faire former à la Masia. Il avait des problèmes de croissance, il était parti aussi là-bas pour ça. Il a longtemps été un étranger dans son pays.
Ah oui.
Évidemment, la Coupe du Monde, voire la Copa América, a changé beaucoup de choses, mais ce n'était pas un héritage écrit. Donc c'est vrai que le point final de l'Argentine, ce serait beau.
Je pense après, que ça conclurait bien sa carrière.
Ouais, après,
c'est ce qui lui manque.
Mais j'ai l'impression quand même que Lionel Messi aime bien la pépette.
Oui, oui, bah oui.
Parce que,
eh oui.
Parce que voilà, la solution, ce serait d'aller là-bas, mais il faudrait vraiment baisser le salaire de manière très importante. Le PSG, je pense que c'est une mauvaise idée pour les deux, pour lui, et parce que comme tu l'as dit, il est triste depuis le début. Il était triste la première année parce qu'évidemment, il quittait ce qui avait été sa maison pendant 20 ans, c'est-à-dire Barcelone, et que n'importe quel être humain qui se retrouve dans un milieu différent ne le vit pas bien, surtout quand il y est contraint. Là, il y était contraint parce que le Barça n'avait plus les moyens pour le payer, et finalement, il n'y avait que deux clubs qui pouvaient le payer. J'ai dit deux pays, c'est un lapsus.
Ouais,
c'était City, Manchester City et Paris Saint-Germain. City n'en voulait pas. Donc, ça a été le Paris Saint-Germain. Le retour au Barça. Pareil que toi, mauvaise idée, ça marche jamais.
Je
toute
pense
façon.
Que c'est même la pire de toutes les idées.
La pire
des
idées, parce que
même mieux rester au PSG.
Je plus qu'il mettrait dans une. Alors, évidemment, c'est difficile de ne pas mettre Messi sur un piédestal. Mais il le mettrait toujours sur ce piédestal-là. Et je pense que cette
équipe-là.
Oui, mais
sauf que tu as des mecs qui ont pris le pouvoir.
Et en train de construire quelque chose d'autre. Et à un moment, il faut tourner la page.
Et mais d'ailleurs, alors,
et puis, ils n'ont pas les moyens. À un moment, il faut arrêter de rigoler, là.
Il y a Xavi qui a parlé aujourd'hui, ouais. Et qui a donc dit « J'aimerais que Messi revienne, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, mais cela ne dépend pas que de moi, cela dépend de son bonheur et s'il veut revenir. » Alors est-ce que c'est une déclaration politique, parce qu'à Barcelone, tu ne peux pas dire « Ah bah non, j'ai pas envie de Messi », peut-être, ouais. peut-être. Mais si il pense, je ne peux pas croire que Xavi, qui est quelqu'un de sensé, qui est l'architecte du nouveau Barça, c'est-à-dire que c'est lui qui réfléchit à ça tous les jours, qui fait confiance à des jeunes, qui fait confiance à de nouvelles figures, qui doit faire aussi avec des nouvelles têtes venues d'ailleurs. Mais je ne peux pas croire que lui pense réellement ça, c'est-à-dire que faire revenir Messi, ce soit une bonne idée. Je ne sais pas qui peut penser ça aujourd'hui à Barcelone, si ce n'est effectivement les socios qui sont complètement fous et qui ont des tatouages de Messi de partout. Mais ça, pour moi, Messi, aujourd'hui, c'est une idée qui doit être enterrée et rester justement sur ce qu'on a eu de Messi au Barça, c'est-à-dire un des plus grands, si ce n'est le meilleur joueur de club de l'histoire.
En tout cas, il ne peut pas dire le contraire.
Il ne peut pas dire le contraire.
C'est intenable. Imagine en conférence de presse, non, Messi ne reviendra pas. Ou il aurait pu mettre un joker, mais en tout cas, bon, ça fait bien de dire ça. Mais même les raisons financières, le Barça était un club qui, il y a deux ans, avait un salary cap, enfin pas salary cap, d'ailleurs une masse salariale qui était à 115% de son budget. J'imagine que si Messi revient, ça va faire remonter la jauge. Et quand on voit que les mercato du Barça ne sont pas clean, parce que justement, il faut toujours faire attention, ça n'aurait absolument pas de sens de faire revenir Messi, hormis sur une énorme ristourne. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément prêt à ça. Il y a la rumeur Al-Hilal.
Oui,
en Arabie Saoudite, c'était Chiringuito qui a dit ça, avec un salaire plus haut que celui de Cristiano Ronaldo. Alors bon, voilà, ça serait tout le mythe du retour du duel, etc. Mais bon, là, franchement, moi, perso, je trouve c'est un peu triste déjà pour Ronaldo. Alors là, les deux, ce serait vraiment... On a l'impression que c'est une fois que t'es passé par Broadway, tu te retrouves dans un théâtre de seconde zone pour jouer toujours la même pièce. Je suis pas certain. Et il reste, évidemment, les États-Unis. On parle de Miami parce que Beckham. Et avec là, il y aura un ils sont très malins les Américains parce qu'évidemment il y a des salaires, il y a quelques salaires qui ne sont pas capés aux États-Unis, donc lui il serait au-dessus du salary cap. Et en fait l'idée ce serait que les clubs de MLS paieraient en partie son salaire, mais ils sont malins, c'est le business,
oui,
ils savent pour la développer.
Mais sportivement c'est... Donc ça veut dire que quand il joue contre toi tu ne vas pas le blesser, c'est toi qui le paye. Mais moi, laisse le marquer
mais
en fait.
C'est très américain, c'est-à-dire qu'ils ont compris que la lumière... qui serait mise sur le championnat MLS. Il faut savoir quand même que la MLS, si tu veux la voir en France, faut payer sur Apple TV, je crois. Je suis plus sûr du prix, mais je crois que c'est 14€ des poussières. Un truc comme ça. Ce qui est quand même.
Oui, pour voir Denis Bouanga, bon là c'est un peu.
Très cher pour le championnat
MLS.
Beaucoup
de Denis Bouanga, mais ça fait beaucoup.
Bah, c'est sûr qu'avec Messi, ça devient tout de suite un peu moins cher. Et je pense qu'il y aura une clientèle. Donc voilà, donc c'est plutôt malin.
Ouais, mais alors tu parlais de l'Arabie Saoudite. La MLS, c'est pas l'Arabie Saoudite. Mais enfin bon, c'est voie de garage quand même. C'est, sportivement, c'est quand même. Proche de pas grand chose.
Alors, tu connais mon amour pour les États-Unis.
Mais tu peux pas me dire Al-Hilal, c'est triste, comment il termine tout ça. Tu vas à Miami. Que ce soit Miami, effectivement, que c'est chouette.
Non, pour le coup, j'aime pas beaucoup Miami comme ville, mais quand même le choix de vie, le cadre de vie.
Voilà, le cadre de vie. Mais je te dis sportivement, entre l'Arabie Saoudite et la MLS.
Je pense que c'est un peu au-dessus quand même.
C'est un peu au-dessus. Mais on va, t'es Lionel Messi. Messi. Pour moi, c'est soit tu continues en Europe. T'as le fantasme de cette Ligue des Champions une dernière fois, une dernière danse, et là ça se discute au niveau des clubs. Soit tu pars dans ton pays où t'as un lien, une affection, quelque chose, tu racontes une histoire. La MLS, il y a zéro histoire. À part le fric, il n'y a pas d'histoire.
Il reste la retraite.
La retraite.
Mais ça, je pense que ce ne sera pas le cas parce qu'il a encore envie de jouer. Il a envie d'aller au moins chez la Copa América avec l'équipe d'Argentine. Donc, étant qu'il a les jambes, parce que le niveau moyen de Lionel Messi, il reste quand même assez élevé.
Un peu au-dessus du reste.
Un peu au-dessus du
reste. Du commun des mortels.
Plus assez pour espérer porter une équipe sur ses épaules. Mais en tout cas, ça reste là. Et puis, il a encore envie de jouer.
Sauf l'Argentine en Coupe du Monde, parce qu'il est suffisamment motivé. Mais...
voilà. Mais si je devais mettre une pièce sur son avenir, j'exclurais pas complètement le PSG. Parce qu'on n'est jamais déçu par le PSG. Ah, je crois que je mettrais Ali là.
Ouais.
Ah, non, mais...
ah ouais, non, mais ce serait
il y a 200 millions par an, il se fait un salaire à la Ronaldo. Et puis
moi, 200 millions par an, j'y vais pas, Maxime, je reste à Eurosport, je te le dis.
Je crois que j'y vais quand même.
Ouais, moi aussi, je pense que j'y vais aussi finalement.
Mais même pour, d'ailleurs, rappel, hein, même à 3-4 millions, j'y vais. Hein.
T'as un homme d'argent, toi.
Non, mais 3-4 millions, ça va. Comme je t'ai déjà dit, 3-4 millions. Tu les mets dans ta poche, tu les places à 3%, tu ne touches pas pendant un an. Tu vis dessus, faites le calcul chez vous, vous allez voir, ça suffit pour
répondre. Je te parle de passion, tu me parles de millions d'euros maxi.
Ah, mais après, je vivrai ma passion. J'irai voyager, je ferai le tour du monde pendant les
ah oui, jusqu'à la fin de ta vie.
30 ou 40 ans
qui m'a installé. Tu peux être tranquille. Des millions d'euros, c'est ce que cherche la Ligue 1 d'ailleurs, et c'est ce que dépense surtout la Ligue 1. Ce sera le troisième sujet de cette émission, où vous allez avoir un Maxime Dupuis très énervé. L'équipe qui a publié les comptes, non pas les comptes, mais les salaires des joueurs de Ligue 1, et bah, l'heure est à la hausse, à l'inflation, alors même qu'on pensait voir une Ligue 1 un peu souffreteuse. On sait qu'elle a souffert pendant la crise du Covid. Il y a eu, un, la crise du Covid, deux, la crise des droits télé. Souvenez-vous de Mediapro, des droits télé donc, qui sont en perte totale, en chute totale. Et pourtant, les salaires augmentent. Et ça, ça ne plaît pas, mais alors ça ne plaît pas du tout à notre banquier, Maxime Dupuis.
Alors, ce n'est pas mon argent, donc je ne devrais pas m'énerver comme ça, mais tu connais David Copperfield, Houdini, ils font un parc des lapins, bah, ils font un parc de l'argent en fait. Je résumerai ça par un chiffre qui est donné par l'équipe, l'équipe qui ont donc fait leur dossier hier sur les salaires. 13 des 17 clubs qui sont en Ligue 1 cette année, qui étaient déjà l'année dernière, ont augmenté leur masse salariale. Alors, c'est fantastique. Alors, il y a le PSG qui est un peu à part parce que le salaire moyen, c'est 1 million, un peu plus d'un million. Bon, il y a 12 millions pour trois joueurs qui sont Neymar, Mbappé et Messi, dont 6 pour Mbappé. Mais ça, à la rigueur, Paris, c'est hors sol. De toute façon, ils sont en déficit constant. Il y a un État souverain derrière. Donc, c'est pas mieux. Mais bon, à la rigueur, eux, on les met à part. Mais moi, je suis quand même inquiet des clubs comme Nantes, par exemple, où ça, c'est Sissoko, plus gros salaire de l'histoire du club. Mais à quel moment, aujourd'hui, Nantes a les moyens d'offrir ce salaire qu'il n'était pas capable d'offrir avant la crise du Covid. On va quand même le dire. On est sorti donc de la crise du Covid avec des tribunes vides pendant un certain temps. Donc le manque à gagner, ce n'est pas le poste principal de recettes, mais quand même, ça compte.
Un marketing aussi qui s'effondre.
Le marketing qui s'effondre, les hospitalités. Le drame Mediapro, souvenez-vous, 2018, contrat signé en décembre, 1,1 million. Mediapro plus Canal, etc. L'appel d'offres, déjà, on savait qu'à l'époque, c'était surpayé.
Un milliard,
oui, c'est pas la même chose. J'ai toujours du mal, tu vois, je t'ai dit, j'ai du mal avec les chiffres. Rupture du contrat en décembre 2020 pendant le Covid. Amazon arrive à la rescousse, rajoute 250 millions aux 300 et quelques millions que payait Canal+, et on arrive à une somme de 663 millions. Donc, en gros, on a divisé quasiment par deux les recettes des droits TV, et on sait que les recettes des droits TV, c'est le poste principal de recettes, ouais, avec la manne des transferts. Et il n'y a pas plus bizarre, on va dire, et imprévisible que les transferts. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les clubs ont augmenté
les salaires.
Prenez l'exemple de l'OL, qui a fait revenir trois joueurs entre cet été et cet hiver, qui sont Lacazette, Tolisso et Lovren. Et là, on oscille entre 450 000 euros par mois et 400 000. C'est-à-dire qu'un joueur comme Tolisso, à un moment, l'OL n'est pas obligé de payer autant parce que l'OL lui fait aussi une forme de fleur aussi en faisant revenir. Mmh. Et en fait, on a l'impression que les clubs, finalement, sont toujours dans cette fuite en avant perpétuelle. C'était le cas avant, c'était le cas pendant, ce sera le cas après. Et ça me rend complètement dingue parce que je ne comprends pas qu'on puisse gérer comme ça.
Je m'étais fait un pari dans ma tête, je m'étais dit, il va dire fuite en avant. C'est ton expression. Et là, typiquement, on est dans le sujet fuite en avant. Mais non, mais t'as raison. Et surtout qu'il y a autre chose. C'est que donc on est sur une Ligue 1 qui dépense plus qu'elle ne reçoit, qui va être dans le rouge. on a un manque de diversité au niveau des recettes, mais ça, on en a déjà parlé, notamment au moment de la crise du Covid, c'est-à-dire que en Angleterre ou ailleurs, on sait mieux diversifier les recettes. Là, en gros, tu as dit les deux grosses mamelles de la Ligue 1, c'est les droits télé et les transferts. Or, les droits télé vont être renégociés là, dans cette année.
À l'automne, oui.
Je ne suis pas sûr que Canal revienne, parce qu'il y a quand même un différent très léger entre Canal et la Ligue. La source, c'est Tari. C'est Canal qui a fait vivre la Ligue 1, la Ligue, enfin, Ligue 1, Ligue 2 pendant des années. Donc plutôt que d'être prudent, on est dans une Ligue 1 qui profite de CVC, en fait, de la manne financière de CVC pour investir sans penser au lendemain. Et je pense que ce qui leur sauvera les fesses, ce sera peut-être les transferts, mais comme tu le disais... Mais
ça ne les sauvera pas, en fait, parce que c'est du déficit permanent, de toute façon.
C'est du déficit permanent.
Il faut expliquer ce qu'est CVC, pour ceux qui ne savent pas. C'est un fonds de pension qui est rarement là pour faire du bénévolat ou être sympa, pour la philanthropie, qui a racheté 13% de la filiale commerciale de la LFP. En gros, c'est un peu comme si 13% de la Ligue 1 lui appartenait. Avec un investissement qui est au-delà du milliard... Et ils ont donné de l'argent au club. Il y a eu 200 millions pour le PSG, 90 millions pour l'OL et l'OM. Voilà. Et c'est pour aider aussi les clubs. Parce qu'en fait, tout simplement, les clubs qui étaient dans une situation difficile avec le Covid, ce qui est compréhensible, quand on est en situation difficile, c'est un peu comme le CTLM. Vous allez faire un prêt, voilà. Mais le prêt, à un moment, il faut le rembourser. Et CVC arrive et il explique que, oui, on donne de l'argent, on en donnera après, mais attention, il faut que les comptes soient sains. Alors, ça veut dire quoi, des comptes sains ? Normalement, c'est un club qui est bien, j'allais dire entretenu, mais qui est bien géré. J'ai un petit doute, mais c'est toujours la même chose avec les clubs. C'est-à-dire que cette fuite en avant, elle s'explique par quoi ? C'est que là, tu l'as dit, les droits TV. Ouais, mais c'est super, vous allez voir, on va se faire un milliard, etc. Je pense qu'ils sont encore en train de rêver. Souvenez-vous, pendant la crise du Covid, au moment où Mediapro était parti, il y avait le président Caillot de Reims qui disait « Bon, on va s'arranger, ils vont filer 800 millions. » Il l'avait dit, mais devant les micros, hein, et ça ira. C'est pas comme ça que ça se passe. Il devrait le savoir, pourtant il gère un club de Ligue 1. Le passage à 18 clubs, ils disent bon, le gâteau, il y a deux clubs de moins qui touchent un peu d'argent, donc on va en avoir un peu plus. En fait, ils trouvent toujours une bonne raison d'être optimistes. Sauf qu'à la fin, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire comme les budgets prévisionnels, de dire on vise une troisième place, on vise une quatrième place. Je ne sais pas ce que l'OL a visé, mais j'imagine que c'était pas une dixième place. Donc voilà, en fond, c'est toujours ça. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que finalement, on voit que c'est des clubs qui sont trop dépendants des droits TV, des transferts. Et après, on s'étonne que les clubs n'aient pas de bons résultats en Coupe d'Europe parce qu'il n'y a pas de démarche sensée au niveau de la gestion. Et c'est aussi pour ça que le football français va mal. Ce n'est pas seulement le terrain.
Merci Maxime, tu nous as bien plombé l'ambiance avant le week-end. Tu vois, moi, les gens qui nous écoutent, ils étaient tranquilles là, ils partaient en week-end.
Je sais qu'ils savent, les gens qui nous écoutent.
Ouais, mais tu leur as bien défoncé leur week-end là.
Je peux dire que moi, si je gère un club...
Ah oui, ça se passerait pas pareil. Mais...
Alors, mon club, il gagnerait sûrement pas la Ligue des Champions.
Non, il serait sûrement plus en Ligue 1 depuis longtemps.
Mais il n'y aurait pas de dette.
Mais il n'y aurait pas de dette, exactement. Merci Maxime.
Merci Martin.
Merci et Simon aussi derrière la caméra. Merci Quentin, évidemment, pour les visuels. Merci à nos stagiaires aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Oscar et Anne, qui nous remplaceront peut-être un jour.
C'est tout. Alors.
Je ne sais pas si on leur souhaite ça.
Je ne sais pas si je leur souhaite.
Ouais, peut-être. Si, moi je leur souhaite parce qu'on s'amuse bien au fond.
Oui, on n'a pas de mauvaise vie. On ne touche pas 200 millions par an comme on a
d'autres. Tu touches pas 200 millions par an toi ?
Un peu moins.
Un peu moins, ouais. D'accord. Bon.
Mais c'est sympa. Après tout, on parle de foot.
On s'amuse bien.
Il y a pire.
Faut juste supporter quoi. C'est juste ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Et puis en attendant, amusez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.
À la semaine prochaine, salut.